voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, je suis ravie d'être avec vous et aujourd'hui avec des filles qui n'ont pas froid aux yeux, des filles qui en ont quoi. Stéphanie qui a traversé l'Antarctique, la plus longue expé réalisée en ski sans voile de traction. Sophie, elle, à ma droite, a parcouru le Caucase à pied, elle a ramé aussi 1000 km sur le Zambèze. Et Marion a lancé le surf en Iran et toutes les trois, elles sont avec nous aujourd'hui. Alors quel est le moteur de ces aventures au féminin? Qu'est-ce qui pousse une jeune femme fragile, frêle, à aller au-delà de ses forces? Et comment le sport est une voie d'émancipation? On attend vos commentaires, les voisins, les voisines, vos questions au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Donc Stéphanie Jiquel, à ma gauche, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avocate et aventurière. Je crois que maintenant on peut coller ce qualificatif aventurière, hein, puisque vous avez quand même eu un exploit en Antarctique.
Oui, j'ai traversé l'Antarctique à ski sans voile de traction, comme vous le disiez, ça veut dire sans l'aide du vent. J'avais vraiment fait ce choix de ne pas utiliser de voile pour faire corps avec le continent antarctique. Je rêvais en fait de découvrir ce continent et les livres ne me suffisaient plus. J'avais vraiment besoin de me confronter à lui et d'y aller. Donc j'ai eu cette idée folle il y a 6 ans maintenant.
Et vous l'avez réalisé,
voilà, je l'ai réalisé en 2014-2015.
3 ans. Vous n'étiez pas seule, vous étiez avec votre mari. Donc vous allez nous raconter cette aventure. Il y a un livre aussi, hein, Across the Antarctica, et un film également, un film assez court, et une association, puisqu'aujourd'hui vous allez porter cette voix de cette expérience à travers l'association Runners to the Pole. Sophie de Courtivron, à ma droite, bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi de l'aventurière en vous, hein, même si vous êtes journaliste au départ, économique, freelance, mais pendant vos vacances, vous ne restez pas tranquille, vous avez ramé sur le Zambèze et vous avez traversé le Caucase, par exemple. C'est quoi ce besoin d'utiliser ces vacances avec des aventures un peu extrêmes?
Alors, ce n'est pas forcément des vacances, hein. C'est des temps que je prends quand j'ai envie, quand j'en ressens le besoin, justement, quand j'en ai peut-être un peu marre de la routine, entre guillemets, parisienne. C'est plus un appel. En fait, je réponds à des envies qui naissent peu à peu et qui se concrétisent parce que je ne peux pas laisser une idée mourir.
Ben vous allez nous raconter alors comment ces idées naissent et comment vous les réalisez. Et également avec nous, Marion Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de France Bleu Pays Basque, donc à Bayonne, car vous êtes surfeuse, donc la proximité du golfe, hein, c'est bien, de la mer, pour réaliser son rêve, sa passion, mais vous êtes surtout réalisatrice. Et il y a un film qui vous a emmené donc en Iran pour que les femmes prennent aussi la vague, ça s'appelle Into the Sea. Et donc vous êtes vraiment une pionnière, hein, car il n'avait jamais vu de planche de surf en Iran. C'est vous qui avez amené la première planche.
C'est ça, oui. Le surf n'existait pas en Iran et voilà. Maintenant, il y a une fédération, les gens surfent, donc c'est une belle aventure humaine, ouais.
Et tout a commencé puisque vous avez amené avec vous une championne de surf, une Irlandaise. Vous allez nous raconter comment le surf a pris donc dans cette région du sud de l'Iran. On est au Baloutchistan, dans une région quand même assez isolée et qui fait peur. On va donc découvrir vos aventures. Qu'est-ce qui fait votre force, hein, pour aller au bout? On aura aussi un reportage pour suivre deux filles qui font du parcours. Je ne sais pas si vous connaissez le parcours. C'est l'art de se déplacer en ville, de sauter de mur en façade. Et c'est à la mode chez les garçons, mais quelques rares filles aussi s'en emparent aujourd'hui. Sur Facebook, continuez de nous laisser vos messages ou appelez-nous pour poser des questions à nos aventurières au 33 1 84 22 71 71. Un message nous arrive de Feka sur Facebook, qui nous arrive du Bénin. Il dit que lui, alors il vit avec une boxeuse. Donc elle a dû faire beaucoup d'exercices, hein, pour renforcer sa musculature. Et alors, de son point de vue, donc la première fois qu'il rencontre une femme comme ça, eh bien, tu te dis qu'elle est faite comme un homme. Donc elle ne porte pas de robe, elle fait beaucoup de sport. Et donc elle n'a pas vraiment une vie de femme classique. Et qu'elle ne peut pas se permettre aussi, donc il parle de sa femme, d'avoir un enfant tout de suite au risque de compromettre sa carrière. Donc continuez vos témoignages sur Facebook ou réagissez dans l'émission en direct au 33 1 84 22 71 71.
Je ne sens plus mes doigts. Le vent me glace le visage. Le sommet culmine à 3000 mètres. Mais il est loin. Si loin Il faut faire vite pour quitter ce continent avant que l'hiver s'installe.
Et on se demande souvent qu'est-ce que l'aventure alors que la planète est complètement balisée. Aventure et sport à l'extrême au féminin, donc c'est l'émission aujourd'hui. C'est votre cas, Stéphanie Jiquel, que on vient juste de vous entendre, hein, puisque vous avez traversé l'Antarctique en ski sans voile de traction. Et vous avez quand même battu un record, 2045 km. Un record donc, que vous racontez dans un livre aux éditions Vilo qui s'appelle Expédition Across Antarctica. Alors c'est ça, aucune femme. Vous êtes partie en couple quand même, il faut le dire. Mais aucune femme n'avait jamais réalisé une expédition comme ça aussi longue. Vous êtes fière de ce record ?
Oui, je suis contente. Après, ce n'était pas l'objectif. Il faut savoir qu'avant le début de l'expédition, j'avais prévu de réaliser 1800 km. Donc une traversée qui permette de partir d'un point de la côte, de rejoindre le pôle sud et de rejoindre un autre point de la côte sur 1800 km. Et faute de budget suffisant, 2 mois avant le début de l'expédition, j'ai été obligée de demander à la logistique, donc une société américaine qui m'a déposée sur la côte du continent, de me déposer plus près de la base de façon à réduire les coûts. Et donc, du coup, pour pouvoir faire une traversée, j'étais obligée de faire 2045 km et plus 1800. Et donc, c'est ce qui m'a conduit à faire ce record, mais ce n'était pas l'objectif premier de ma démarche. Et aujourd'hui, oui, je suis contente. J'espère que d'autres femmes réaliseront d'autres expéditions en Antarctique et que ce record sera battu.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé sur ce terrain extrême ?
Alors déjà, la passion du sport. Quand je suis rentrée de cette expédition, je me suis sentie plus vivante que jamais. C'est vraiment un truc de fou. J'ai ressenti une très forte plénitude, un très grand accomplissement. Et c'est ça que je suis allée chercher, c'est vraiment me dépasser. Et je suis passionnée de sport, j'aime beaucoup le sport d'endurance. Je pratique l'ultra-trail, la course à pied sur longue distance. Donc je participe souvent à des compétitions sur 150, 200 km, où je pars parfois en France sur des GR, parcourir 300 km sur plusieurs jours en courant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie en Antarctique. Puis il y a aussi évidemment la passion des pôles. C'est une passion qui est ces continents sont très, très attirants.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre les conditions, justement, sur le pôle sud. 12 km par jour à ski pendant 74 jours. Donc, l'idée, quand même, elle peut paraître assez folle. Racontez-nous une journée type, par exemple, qu'on se mette dans la peau d'une aventurière au pôle sud, puisque, personnellement, je n'irai jamais.
En fait, j'ai skié de 8h à 12h par jour. Donc, c'était plutôt 25-30 km en début d'expédition et 40-50 en fin d'expédition. Puisque j'avais un temps limité pour effectuer cette traversée. J'avais uniquement 75 jours de façon à pouvoir quitter le continent dans le dernier avion qui s'envole pour le Chili. Donc le temps était vraiment pressé.
Il fallait pas rater le coche.
Voilà, exactement. Et donc en début d'expédition, j'ai le vent de face tous les jours jusqu'au pôle sud, jusqu'à 80 km/h. Les températures sont descendues à moins 50 degrés. Alors moins 35 degrés, on est bien. On finit par s'habituer hein, quand on vit tous les jours à moins 35. À moins 50, on est vraiment en situation de survie. Donc là, les pauses, elles ne sont plus de 10 minutes, elles sont de 3 minutes.
Faut qu'est-ce qui se passe vite, sinon
Parce que sinon, on a des gélures, on peut avoir une hypothermie. Donc, il faut vraiment aller très, très vite. Surtout pour les femmes, on a les doigts et les extrémités qui sont beaucoup plus sensibles. En tout cas, moi, je sais que je résiste beaucoup moins que les hommes au risque de gélure. Donc, il faut vraiment aller très vite pour justement produire de la chaleur dans le corps parce qu'on n'est pas habillé comme lorsque l'on fait une ascension de l'Everest. Hein. Il faut imaginer qu'en Antarctique, lorsque l'on part avec des skis de randonnée nordique, on est très peu habillé parce qu'on produit beaucoup de chaleur. On fournit beaucoup d'efforts et donc on n'a pas des grosses doudounes. Et donc quand on s'arrête pour boire et manger, il faut faire ça très très rapidement. Donc quand il fait moins 50, ça prend 3 minutes, on n'a même pas le temps de fermer son traîneau. Voilà, donc les journées types, c'est 1 heure de ski, 10 minutes de pause ou 3 minutes s'il fait plus froid, 1 heure de ski, 3 minutes de pause, et etc. jusqu'à la fin de la journée.
Et là, pour avoir le décor dans les yeux, c'est une mer de glace, en fait, avec des vagues aussi gelées.
Oui, alors c'est très, très bien. Vous faites la référence à la mer et c'est vrai que ça ressemble à un océan gelé parce qu'il y a des vagues de glace partout. Donc des vagues de glace qui sont assez tranchantes, hein, qui sont formées par le vent. Alors en début d'expédition, sur les 400 premiers kilomètres, il était impossible de contourner ces vagues de glace parce qu'elles occupaient tout l'espace. Donc il fallait les franchir au risque de casser les skis. Puis après, ça ça allait beaucoup mieux. Et ensuite, quand on arrive autour du pôle sud, sur les 100 derniers kilomètres qui entourent le pôle sud, là, pour le coup, c'est très plat, mais par contre, on s'enfonce. Donc la neige n'est pas du tout la même à chacun des points de ce continent. En début d'expédition aussi, c'est très différent, puisqu'on est sur une barrière, et la barrière, elle flotte sur l'océan. Donc moi, j'ai démarré, en fait, en dehors des limites du continent, sur l'océan, sur une barrière de glace, et là, la glace est bleue. Et ensuite, quand on rentre sur le continent, c'est là qu'on rencontre ces vagues de glace qui étaient plutôt pénibles en réalité, même si elles sont magnifiques. Je me souviens notamment de labyrinthes de vagues de glace qui étaient juste somptueux. Alors, j'ai pris quelques photos, mais malheureusement pas tout le temps, parce que le temps a été compté. Mais j'ai vraiment de très très beaux souvenirs, très beaux paysages.
Vous n'êtes pas perdu en tout cas dans ce labyrinthe de glace, mais vous avez risqué votre vie aussi face à des crevasses gigantesques dans le brouillard total. Vous avez failli y rester.
Oui, en fait, j'ai fait un peu une erreur de navigation, c'est-à-dire que le 14e jour, je me suis retrouvée devant une immense crevasse que j'avais pourtant visualisée sur les images satellites. voilà, c'est une erreur. C'est vrai que ça faisait plusieurs jours que je naviguais dans le brouillard blanc et que du coup, j'ai trop viré vers l'est. Et voilà, donc heureusement, le brouillard s'est levé une heure avant d'arriver devant cette immense crevasse et j'ai fait demi-tour, ça m'a pris une journée. Voilà.
Donc là, vous avez failli y passer. Vous avez eu une peur rétrospective, ouais, ou j'ai vous vivez eu, avec la peur au
j'ai
ventre
eu, j'ai eu peur, j'ai eu aussi très peur quand il a fait moins 50 degrés. Parce que là, franchement, on se dit, s'il fait plus froid, qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, là, j'ai eu peur. Il faut savoir aussi que quand on part sur ce type d'expédition, et ça ne m'était pas arrivé sur les précédentes, hein, même quand je suis allée au pôle Nord ou au Groenland ou au Spitzberg, ou même sur des courses de longue distance, je n'avais jamais ressenti ça. C'est que quand je suis partie sur cette expédition, je savais qu'il y avait un risque que je n'en revienne pas. Et on se met vraiment dans cet état d'esprit. On prévoit aussi la possibilité de ne pas en revenir. Et ça, c'est très, très particulier. Je ne suis pas sûre de vouloir le revivre, à vrai dire.
En tout cas, quand on vous voit comme ça, vous êtes toute petite, menue. Vous n'avez pas vraiment le gabarit. Non, c'est vrai, on dirait qu'elle est toute fragile comme ça, mais pas du tout. Vous avez un mental d'acier, ouais, c'est tout est dans la tête.
Oui, il y a beaucoup de détermination, un mental d'acier. Mais c'est vrai qu'on remarque ça souvent chez les femmes qui se lancent dans des projets ambitieux ou qui réussissent. C'est vraiment une très, très forte détermination, quelque chose qui est vraiment en soi et qui ne soit pas forcément sur le physique à première vue. Ouais.
Et alors vous, Sophie de Courtivron, vous êtes une bonne sportive aussi, hein, peut-être pas aussi extrême, mais un peu le même gabarit quand même. Enfin, qu'est-ce qui vous pousse à aller ramer sur le Zambèze ou à traverser le Caucase ou...
Alors moi, c'est la découverte plutôt. Je dirais que la condition physique est un moyen pour m'aider, parce que j'aime la lenteur, être immergée dans des coins un peu perdus, donc il faut savoir que son corps va suivre et pouvoir nous aider. Mais moi, ce qui me pousse dans tous mes voyages, c'est vraiment découvrir un milieu, découvrir des gens, si possible dans des coins reculés, découvrir leur culture, c'est la joie de la rencontre.
Alors là, on va vous écouter dans un extrait sur le Zambèze, hein, 1000 km à ramer sur le Zambèze.
Toujours dans la lave, on va arriver par là, tac, et dès que ça s'élargit, hop, il faudra suivre le flot, je pense, principal, à droite, tac, et là, par là, ça devrait peut-être secouer encore un petit peu, tout droit, mais bon.
Et après, on rejoint
easy.
Le flot principal.
Voilà.
Donc un beau labyrinthe.
Franchement pas mal.
On va tout droit là? Là où? À droite là? À droite, comme ça là. Allez hop, comme ça. Tout droit en rame, puissance, puissance, puissance. Yeah. Puissance. C'est bon. Hop, on tourne. Allez, on continue, puissance. Puissance. Voilà, comme ça, on évite ça, tout droit. Tout droit et on va à droite.
Alors là, on entend, vous êtes en plein dans des rapides, hein, Sophie de Courtivron, donc sur ce Zambèze. Et puis, vous êtes aussi avec un homme, un ami, c'est un coach aussi. Il vous dit puissance, puissance, vous êtes devant sur le canoë.
Alors, je pense qu'il parlait plus pour lui. En effet, on était deux, hein, pendant cette expédition. Et en effet, moi, j'étais derrière. Hein, donc, non, j'étais devant, pardon. Lui, derrière, la force derrière. Hein, quand on est à deux sur un canoë biplace, c'est l'homme derrière. Et il se parlait plus pour lui-même, parce qu'il y avait tellement de bruit que je ne n'entendais pas. ces indications. Et de toute façon, on n'en avait pas besoin parce qu'on était vraiment dans le flow. Et là, on se lance et on essaye de gérer au mieux les rochers, les obstacles. Et il y a absolument pas le... on n'a pas l'oreille attentive à quoi que ce soit.
Parce que vous êtes parti donc ramer pendant 1000 km hein, sur le Zambèze. Vous partez donc de où à où? Où est-ce que vous posez le canoë?
Alors, on est parti avec un canoë pliable. Hein, c'est très, très facile à transporter. Donc, on a rejoint nous-mêmes notre point de départ qui était Chavuma, un petit village au nord de la Zambie, proche de la frontière avec l'Angola. Et on a descendu le fleuve jusqu'aux chutes Victoria, donc à peu près 1000 km. Donc tout l'amont en fait, du fleuve, qui est la partie la moins connue par rapport aux endroits où vont les touristes qui sont après les chutes.
C'est ce que vous nous disiez. Vous aimez les endroits isolés où vous pouvez faire des rencontres un peu inattendues, être dans des paysages sauvages.
Voilà, oui.
Qu'est-ce que vous avez vu alors sur ce fleuve?
Alors, ce qu'on a vu, c'est différents écosystèmes. C'était d'abord un peu de savane, après toute la plaine inondable du Barreau de Ceylan, qui est désertique en fait, et occupée par les Lhotse, qui est un peuple semi-nomade qui vient camper sur les bords du fleuve à la saison sèche et qui repart après à la saison humide. Plus haut dans les montagnes. On a rencontré toutes sortes d'animaux aussi dans leur contexte. Donc là, c'est assez fabuleux.
Les animaux, parlons-en des hippos. Ouais. Bah oui, dans votre film qui est passé sur France O et France 5, les hippopotames, vous dites, c'est le plus risqué. Les rapides, c'est de la gnognotte à côté.
Alors les rapides, oui. Bah, en gros, oui, les rapides, de toute façon, il faut y aller. Donc on y va et on essaye de gérer au mieux. Ce qui était amusant, petite anecdote, c'est que ni l'un ni l'autre n'avions jamais fait de canoë avant de partir. Hein. On a fait juste un week-end d'entraînement à l'UCPA et après voilà, on se lançait comme ça. On avait appris les bases, voilà. Après on se dit qu'on peut gérer, et en effet les hippopotames c'était nos animaux de compagnie, hein. On en voyait tous les jours, plutôt bon gros quoi. Moi, il me faisait pas peur. Paradoxalement, le croco me fait peur. Je vois un croco, j'ai peur. C'est un animal bien plus menaçant. Alors, les crocodiles avaient peur de nous, heureusement. Donc, souvent, on entendait des ploufs en avant. On voyait les traîner sur le sable, mais on en a vu très peu, quoi. Peut-être 5-6. Alors que les hippopotames, tous les jours. Et en effet, on a eu une grosse frayeur à un moment, parce que c'est un animal qui est sur un certain territoire, il ne faut pas s'approcher trop près, il faut longer la berge, et quelquefois il y a des...
Non, parce qu'il peut plonger, oui. et nager comme ça pendant, voilà, des mètres, et ressortir, et vous faire basculer sur du, voilà, canoë, quoi.
C'est la façon dont il charge, et on a eu une grosse frayeur à un moment, parce qu'on en a vu un, en fait on l'avait vu au loin, et puis on s'est dit, bon, on va continuer à longer la rive, et il s'avère qu'on s'est retrouvé à la perpendiculaire, il était assez proche, et là, il a bondi, il a poussé un cri, il a plongé, et là on s'est dit, c'est pour nous, donc on s'est jeté à l'eau, on a nagé jusqu'à la berge, on a laissé le canoë dériver et on s'attendait à voir l'hippopotame ressortir sous le canoë et attaquer le... Et puis finalement, non. Donc il a dû plonger et repartir dans l'autre sens et on a pu heureusement récupérer le canoë en aval.
Donc c'était pas un long fleuve tranquille, ce Zambèze?
Alors c'est quand même un long fleuve tranquille parce qu'on a eu qu'une dizaine de rapides, mais bon voilà, il y a la faune locale, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent tous les jours avec ces animaux-là. Nous, c'est plus impressionnant parce qu'on n'est pas habitué, mais il y a la vie tous les jours au bord du fleuve en compagnie des hippopotames, des crocos, des éléphants, etc.
Mais alors, c'était quoi la plus grande aventure de votre vie, Sophie du Courtivron? Parce que vous avez ramé sur le Zambèze, donc pendant 1000 km. Bah, faites pas cette moue. Vous avez traversé le Caucase pendant 2 mois et demi. Vous avez fait un tour du monde aussi sans jamais prendre l'avion. C'était quoi alors la plus grande aventure?
Aventure, je sais pas. C'est la vie, c'est un tout. C'est peut-être les situations où on est un peu comme... notre camarade, c'est quand on est seul face à soi-même et qu'on doit... L'aventure, elle est là. C'est quand il faut s'adapter, gérer et en situation de danger, si faire tel ou tel choix. Il y a tel choix qui peut être fatal et l'autre va être bon. Et l'aventure, je dirais que c'est appréhender ça. Et ça peut se retrouver partout. Mmh.
Stéphanie Jiquel, une petite définition alors de cette aventure?
Ouais, pour moi, l'aventure, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, c'est vraiment quand on est dans un environnement qui n'est pas forcément le sien à la base, quand on change d'environnement. Voilà, j'ai vécu dans plusieurs milieux et à chaque fois, c'était une très belle aventure, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, le milieu d'avocat ou ensuite le milieu des expéditions polaires, le milieu de l'ultra-trail. Et voilà, à chaque fois, c'est des belles aventures et pour moi, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort et voilà.
Alors, vous restez avec nous, hein, Sophie Jiquel et Sophie de Courtivron. Marion Poiseau, on ne vous oublie pas, on va parler dans 3 minutes, effectivement, ce sera à vous, hein, comment vous êtes allé surfer en Iran, pays où il n'avait jamais vu donc une planche de surf, et en plus, quel impact sur les femmes, hein, de ce pays, puisque les femmes aussi étaient concernées. On continue, les voisins, les voisines, dans 3 minutes après le flash, posez vos questions au 33 1 84 22 71 71, et sur les réseaux, on se retrouve après le flash.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre au cœur de l'aventure au féminin. Elles se sont lancées dans l'inconnu et viennent partager leurs expériences. Qu'est-ce qui pousse Stéphanie Jiquel à traverser l'Antarctique par moins 50 ? Pourquoi Sophie de Courtivron est allée se frotter à l'aventure en ramant sur le Zambèze ou en marchant dans le Caucase ? Comment faire cohabiter la vie au boulot avec les aventures, la vie familiale aussi ? Quels sont les bienfaits de ce sport, hein, extrême sur la vie ? Alors on va partir maintenant en Iran, on va quitter le studio puisque tout le monde parle de ce pays, hein, qui est en train de s'ouvrir, beaucoup de voyageurs s'y rendent. Et savez-vous qu'il y a des plages au sud de l'Iran, mais pas forcément pour se baigner, mais pour faire du surf. C'est tout nouveau grâce à Marion Poiseau qui est allée là-bas filmer la première femme qui a surfé en Iran. On peut voir le film Into the Sea. Et donc Marion Poiseau, vous êtes avec nous depuis France Bleu à Bayonne. Alors quelle aventure, racontez-nous un peu cette drôle d'idée de mettre du surf en Iran avec une surfeuse irlandaise, une championne aussi. Comment ça a commencé cette aventure?
L'idée vient pas de moi, ça venait d'un ami qui savait qu'il y avait potentiellement des vagues donc dans le sud de l'Iran et que personne encore n'avait jamais surfé là-bas. Alors il nous a mis en contact avec cette surfeuse et lui, on devait partir tous les trois, ça c'était en 2010, et lui il a raté son avion. Donc on s'est retrouvé avec cette surfeuse à Téhéran, on s'est rencontrés pour la première fois. Et puis on s'est dit, maintenant qu'on est là, on y va, c'est parti. Et on a trouvé des vagues dans le sud du pays, donc au Baloutchistan. Et voilà, ça a été le premier voyage. Suite à ce petit voyage, j'ai fait un petit film qui a été vu un million de fois sur Internet. Et derrière, on a reçu des messages d'Iraniens et d'Iraniennes qui voulaient savoir si on pensait revenir pour surfer, pour leur apprendre à surfer. Donc en 2013, on est reparti. Et c'est là que l'histoire a vraiment commencé à proprement parler, où on a initié le surf en Iran. Ouais.
C'est-à-dire que là, vous vous appuyez en fait sur une snowboardeuse iranienne, sur une plongeuse aussi iranienne. Donc, ces deux femmes qui, elles aussi, sont des sportives, hein, de haut niveau dans leur pays. Et elles vont donc apprendre le surf grâce à cette championne de surf irlandaise donc, qui s'appelle Iske Brighton.
Mm-hmm. Ouais. Mais moi, j'ai voulu créer un groupe avec des femmes parce que j'ai imaginé qu'en fédérant un groupe de femmes, ce serait plus facile après d'encourager d'autres femmes, surtout dans la région là-bas. Et donc, j'ai trouvé ces deux femmes sur Facebook. Hein, j'ai cherché et quand je leur ai écrit et que je leur ai demandé si elles voulaient apprendre à surfer, elles m'ont dit oui, sans hésiter, c'est clair.
Parce que personne ne surfe en Iran. Ils n'ont jamais vu ça.
Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, non, personne ne surfait. C'est probablement dû à la région parce que la région est considérée comme dangereuse, même au sein de l'Iran. Donc, c'est comme
à côté du Pakistan, hein, c'est ça, le Baloutchistan, c'est une zone à côté du Pakistan.
Mmh. Oui, et on est à 3000 km de Téhéran, donc finalement, parce qu'il y a une communauté de glisse à Téhéran, de ski, de surf, de snow, pardon, et de skate. Et ces gens-là n'étaient pas encore allés au Baloutchistan parce que, même en Iran, la région est considérée comme dangereuse. Et puis finalement, mais tout le monde surfe au Baloutchistan maintenant.
Au début de cette aventure. Mais tout au début, en fait, vous devez commencer à faire du surf à l'abri du regard des hommes sur cette plage du Baloutchistan.
On ne savait pas trop. Donc, on a pensé qu'il fallait effectivement être sur une plage un peu privée. Au final, ce n'était pas forcément indispensable parce qu'on a reçu le soutien des autorités qui ont été plutôt positifs par rapport à l'arrivée du surf.
Donc les autorités, c'est le mot-là, c'est ça.
C'est voilà, les autorités religieuses de la région qui ont validé notre présence et puis le fait qu'on surfe là-bas avec des femmes.
Donc, oui, parce qu'on l'entend dans le film, en fait. Le Mola dit, mais c'est bon pour le corps et l'esprit, donc c'est bon aussi pour les femmes, quoi.
C'est ça, il n'y a pas de raison, du coup. On a un corps et un esprit aussi, donc c'est bon pour tout le monde.
Vous pouvez faire du surf. Par contre, il y a des contraintes, quand même. Il faut faire du surf pour les femmes dans les lois de l'islam. Alors, ça veut quoi?
Il faut qu'on soit couverte. Donc ça, c'est la culture, c'est la loi là-bas. Donc c'est une contrainte dans la mesure où, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tenue adaptée pour le surf. Ce qui fait que les tenues qu'on a improvisées, elles peuvent parfois être un peu dangereuses. Donc voilà, on est en train d'y remédier. On travaille sur une tenue avec des Iraniennes pour qu'ils soient adaptées au surf.
Donc c'est quoi? Sachant c'est un hijab en élastane, c'est ça? Sur la tête, la combinaison intégrale sur tout le corps?
En lycra, ouais. On a des tuniques en lycra, parce que l'eau est chaude. Hein. L'eau, elle est à 28 degrés presque l'été. Et on a une cagoule en lycra et puis une tunique. On improvise vraiment pour être couverte, que ce soit pas trop moulant non plus. Voilà, ça fait partie des règles et des contraintes. Maintenant, moi je pense que l'émancipation passe par la pratique. Donc plutôt que de rien faire, autant y aller comme ça et que les choses avancent aussi comme elles peuvent avancer. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous êtes allé 12, 13 fois en Iran, au Baloutchistan. Donc, à chaque fois, vous faites quoi? Vous amenez des planches? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce coin d'Iran en termes de surf?
Alors, j'y suis retournée 12 fois parce que je me suis fait beaucoup d'amis. Et puis, c'est vrai que le surf a généré beaucoup d'enthousiasme. Donc, depuis, ils ont créé une fédération de surf qui est reconnue par la Fédération internationale de surf depuis 5 mois maintenant. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a de plus en plus de gens qui surfent. Moi, jusqu'à maintenant, je ramenais des planches pour les locaux pour qu'ils puissent continuer à surfer et rendre la pratique accessible au plus grand nombre. Maintenant, je crois qu'ils ont récupéré des planches via des marques, donc j'ai plus besoin d'en ramener. Ce qui m'arrange parce que c'était une logistique un peu compliquée, donc je suis assez contente de ne plus avoir besoin de partir avec mes 5 planches sous le bras. Mais voilà, ça continue. Nous, on a un projet avec les locaux, on aimerait pourquoi pas créer un surf camp et une école qui leur permettrait d'accueillir des étrangers et de leur montrer leur culture.
Et que ça devienne un spot comme Hawaï, c'est ça?
Hawaï, non, peut-être pas, non. Les vagues ne sont pas suffisamment de qualité pour que ça devienne un spot comme Hawaï. Mais bon, après bon, je pense qu'il y a vraiment une région, une culture à découvrir. J'ai rarement été aussi bien accueillie. C'est vraiment un peuple, les Baloutches, qu'on connaît mal. Et voilà, je ne saurais que recommander de partir là-bas, si ce n'est au moins pour rencontrer ces gens formidables. Qui ont un sens de l'accueil qu'on n'a pas. Hein.
Sophie de Courtivron, quel regard sur cette aventure de femmes, pour des femmes au départ,
hein. Ah, c'est assez chouette. Donc, est-ce que c'est un peuple qui est un peu plus ouvert, peut-être, que le reste de l'Iran ou que certains mollahs à Téhéran? Et est-ce que, du coup, les plages sont mixtes aussi? C'était une question. Est-ce que hommes et femmes surfent sur les mêmes plages?
Alors, c'est plutôt l'inverse. La région est plutôt conservatrice, donc c'est pas forcément. C'est une région très religieuse, donc moins cosmopolite que Téhéran. Hein. Téhéran est très ouvert pour le coup. Enfin, c'est une ville où la jeunesse, est active. Hein. Alors, la région du Baloutchistan, au contraire, c'est plutôt traditionnel, donc c'était peut-être plus compliqué de l'introduire là-bas, mais bon, il y a que là-bas qu'il y a des plages pour surfer. Et oui, la pratique est mixte parce que on nous avait demandé de mettre les garçons d'un côté, les femmes de l'autre, mais bon, la vague, elle nous a toutes réunies au même endroit, donc c'est un peu la magie, la beauté de ce sport. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, oui, le surf se pratique de façon mixte. Naturellement, en fait, c'est l'océan qui a choisi.
Et alors, le surf donc était un moyen, je dirais, est-ce que vous pensez que c'est un moyen aussi, un outil d'émancipation pour ces femmes en Iran?
Après, pour l'instant, c'est difficile de mesurer l'impact de l'arrivée d'un sport comme celui-ci. Et puis, globalement, de toute façon, les femmes qui s'y sont mises sont déjà des femmes décomplexées et émancipées, hein. Comme souvent dans le sport. D'ailleurs, il faut quand même déjà avoir un peu de confiance en soi. Donc, il y a des femmes qui sont venues naturellement et il y en a d'autres pour qui ça prendra probablement plus de temps et où il y en a même qui n'ont pas du tout envie d'essayer. Hein, ça arrive aussi. Mais voilà, évidemment, ça change forcément quelque chose. En tout cas, si ce n'est humainement, l'histoire qu'on a vécue, le partage, le vivre ensemble qu'on a pu... enfin, ça reste une aventure humaine et savoir si ça a un impact sur l'émancipation ou pas, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Et quoi qu'il arrive, je pense que les changements, ils se font par dose homéopathique et que voilà, on est qu'au début de l'aventure et tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à partager ensemble.
Sophie de Courtivon.
Oui. Est-ce qu'il y a des étrangers du coup qui vont venir sur ce spot du sud de l'Iran?
Est-ce Il y en a eu quelques-uns. Ouais. Il y en a eu 4 précisément.
Ouais. Ça se compte sur le doigt de la main. Alors.
Pour l'instant, oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de structure encore pour les accueillir. Mais voilà, il y a eu un surfeur qui m'a écrit d'Allemagne et qui m'a dit comment je fais pour aller surfer en Iran. Alors je lui ai expliqué, tu prends l'avion, de Téhéran tu vas à Chabar tu prends un taxi, tu vas à Ramin, tu vas à la boulangerie, tu dis Abid surf et c'est bon. et Abid, mon ami donc, chez qui je laisse les planches, m'appelle et me dit il y a un Allemand qui est arrivé chez moi à la boulangerie et qui a demandé pour faire du surf. Donc il l'a fait, il est parti, il a pris l'avion. C'est une bonne mission quand même, mais voilà, il y a des gens qui ont envie aussi d'aventure comme ça.
Et c'est une sacrée aventure parce que les paysages qu'on voit dans le sud de l'Iran, là au bord de la mer, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plage et c'est vraiment au bord du désert aussi. Racontez-nous.
Oui, c'est ça, c'est l'océan au bord du désert. Alors c'est tellement beau, tellement beau. Et puis voilà, les plages sont vides. Alors moi qui habite à Osgor où il y a maintenant des centaines et centaines de personnes dans l'eau, ben ça fait plaisir d'avoir une vague pour soi aussi. Mmh. Donc finalement, je surfe plus en Iran qu'ici. Mais non, c'est vrai que, enfin, les paysages sont fabuleux. La culture aussi baloutche est vraiment une culture que moi j'ai découvert et ça fait du bien aussi. Je crois que le voyage aussi, c'est aussi ça, c'est aussi un peu remettre en cause certaines des idées qu'on pouvait avoir parce qu'on est surpris et c'est la surprise, le voyage, c'est bien. La bonne surprise.
Stéphanie Jiquel, vous avez envie de réagir?
Moi, je trouve que c'est une super belle aventure. J'adore. Mmh. Un très beau projet entrepreneurial. Et super, j'adhère.
Merci.
Et alors, donc, effectivement, Marion Poizot est réalisatrice, elle est surfeuse. Donc, on peut voir ses images. Donc, c'est ça aussi qui donne ce côté, qui va donner des envies aux autres, qui donne à ces femmes aussi des ailes hein, pour pouvoir continuer. Et vous aussi, vous avez traversé l'Antarctique avec une caméra. Beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, un matériel important sur cette traversée. C'est la première fois qu'on a autant de roches.
Ouais, en fait, il y avait plusieurs caméras. J'avais un Canon 5D, un Canon X-A20, des GoPro, des Q4 de zoom, enfin tout un tas de matériel.
Q-cam de zoom. Voilà. c'est rien que le mot.
C'est des petites caméras de sport. En fait, l'objectif, c'était vraiment de rapporter des images. Donc, au-delà du défi physique, j'ai mesuré la chance de pouvoir se rendre sur ce continent. J'ai travaillé pendant 4 ans pour préparer cette expédition, pour la financer. Donc, je me suis dit, tu ne peux pas revenir sans images, ce n'est pas possible. Et ce sont des images qui sont effectivement plutôt rares parce qu'on parle beaucoup d'Antarctique, mais on parle souvent des côtes ou des bases scientifiques. On voit souvent des images tournées à Dumont d'Urville ou en péninsule antarctique. Mais des images du cœur du continent, ce n'est pas forcément évident parce que ça oblige à porter en fait, ce matériel et donc finalement à vous ralentir et donc à mettre en péril l'expédition. Alors, j'ai laissé une partie du matériel au pôle sud, quand j'ai atteint le pôle sud, parce que c'était un matériel qui était quand même très lourd, plus les trépieds, plus tous les matériels de son. Mais voilà, je suis quand même très contente d'avoir pu rapporter 50 heures de rush. J'ai monté, réalisé un film de 30 minutes. Donc là aussi, seule, donc voilà, j'ai pu faire 30 minutes. J'aurais bien aimé faire plus et probablement j'utiliserai des rushs pour faire une autre réalisation, montrer encore autre chose de l'Antarctique.
Parce que ça, c'est un risque supplémentaire avec le matériel, puisque comment ça fonctionne à moins 50 ?
Alors voilà, justement, c'est un risque à la fois pour les batteries. Donc il faut gérer, c'est assez compliqué. Il faut les tenir au chaud, il faut faire des rushs assez rapidement. C'est aussi un risque parce que le temps est compté. Donc en fait, le film fait partie intégrante de la journée de ski. On ne peut pas attendre une journée pour faire des images ou attendre pendant 3 heures pour faire des images. Il faut vraiment que les images fassent partie de la journée de ski. Donc s'arrêter, faire des images et ensuite accélérer pour garder le rythme. Donc ça, c'était compliqué. C'est compliqué évidemment pour les doigts parce qu'il faut enlever les gants. Enfin, voilà. Après, on avait pris des conseils auprès de pas mal de personnes et notamment Nicolas Vanier qui a préfacé notre livre et qui a eu l'occasion de tourner dans des conditions aussi, aussi extrêmes. Et voilà. Donc on s'est un petit peu renseigné avant de partir, mais c'est vrai qu'on est... Enfin voilà, moi je suis une amatrice en matière de tournage de films ou de réalisation, mais j'ai aussi beaucoup appris dans ce domaine-là, c'était une grande aventure aussi.
L'aventure au féminin, donc continue après Pharo qui chante « Say My Name ». Des femmes qui défient les vagues en Iran, traversent l'Antarctique à ski, à pied aussi, à ski en tirant une poulka, qui rament sur le Zambèze ou qui traversent donc le Caucase. On parle de l'aventure au féminin avec Sophie de Courtivron, Stéphanie Jiquel et Marion Loiseau. Vous connaissez peut-être le parcours, parce que l'aventure se conjugue aussi en ville. Pour l'instant, on était souvent dans la verte campagne. Parcours, ça s'écrit avec un K au milieu et sans le S de la fin. C'est une pratique sportive qui consiste à sauter des obstacles, à grimper des murets ou des barrières. Bref, l'idée, c'est de se déplacer en s'appuyant comme ça sur du mobilier urbain. Et le terrain est pour l'instant surtout occupé par les garçons, il faut bien l'avouer, mais les filles commencent à arriver. Elles représenteraient à peu près 10% des pratiquants aujourd'hui. Et donc, des filles se sont lancées et notre reporter Charlie Dupiot a suivi Adélaïde et Kim. Elles ont la vingtaine souple, les cheveux attachés et motivées, même en ce jour de pluie à la Défense.
C'est amorti.
Vas-y Kim, tu l'as.
Prépare-toi bien serré avec les mains aussi. Hein. Souffle un grand coup. Je l'ai fait Kim, hein, celui-là. Et j'ai juste glissé au niveau des mains et après, comme c'est pas très très haut, tu risques rien.
Bien joué.
Vous êtes alors toutes les deux en jogging, en tennis, avec un sweat.
On se met à l'aise aussi pour pas être gêné quand on saute par quoi que ce soit. Faut pas qu'on ait les cheveux dans les yeux, un pull qui nous donne trop chaud, ou voilà.
Et on est où là alors, ici ?
On est à la Défense. C'est un énorme terrain de jeu. À côté de Paris, c'est là où on a commencé à avoir beaucoup de vidéos de parcours. Et du coup, il y a beaucoup de traceurs qui viennent de un peu partout.
Traceurs, ce sont ceux qui pratiquent en fait le parcours.
Exactement, traceurs et traceuses. Chacun a vraiment des idées de sauts qu'il a déjà vu dans une vidéo.
C'est une grande esplanade en fait, la Défense, au milieu des tours.
Exactement, et du coup c'est très moche en fait, et les gens s'y arrêtent jamais. C'est vraiment plutôt un lieu de passage pour les gens qui travaillent dans les bureaux à côté. Et on est un peu les seuls à apprécier le côté un peu bitume qui sort de partout, barrières qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, et voilà. Si on aime bien grimper, faire ce qu'on appelle des traversées, c'est-à-dire essayer de ne pas toucher le sol en longeant par exemple une façade. Si on aime bien plus la hauteur, aller sur les toits, c'est s'approprier tout ce qui est autour de soi et arriver à se mouvoir au-dessus, en dessous, un peu comme on veut, instinctivement. Mais quand on commence, ça peut mettre beaucoup de temps.
Allez,
là tu sautes à pieds joints en fait.
Là ouais, ce qu'on appelle un saut de précision. Et je le fais sur le côté là où il n'y a pas de vide et c'est pour passer après sur le côté où il y a plus de vide.
Oui, donc là en fait il faut sauter au-dessus d'une cage d'escalier, c'est au moins avec 1,50 m de longueur.
Voilà.
Tu n'as pas peur de tomber toi Kim ?
À force de faire des sauts, en fait on se rend compte à peu près de la distance qui est vraiment acquise. Et du coup, peu importe la hauteur, au bout d'un moment, quand tu sais que tu l'as, il faut se lancer, c'est tout.
Et tu atterris toi sur un pied, ce qui est encore plus difficile j'imagine.
Et on peut toujours s'écraser au sol et ça fait assez mal. Donc là il faut être bien solide, bien gainé, pas lâcher, avoir une bonne prise sur ses mains.
Depuis combien de temps tu t'entraînes ?
Ça fait 2 ans maintenant, minimum 2 fois par semaine. Ça change vraiment des autres sports parce que c'est pas aussi réglementé, il n'y a pas de compétition et ça apporte vraiment une liberté en plus.
Toi, en fait, tu es membre d'une association qui s'appelle Parcours 59 à Roubaix, donc dans le nord de la France. Combien il y a de filles au sein de ton association ?
On est à peu près 4-5 maintenant dans l'assaut.
Pour combien de garçons ?
80 garçons. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne se pensent pas assez costauds justement pour pratiquer ce sport. Et maintenant, il y a de plus en plus de filles qui le montrent, c'est ça qui est bien. Mais c'est plutôt au niveau international.
Dans quel pays, par exemple, est-ce qu'on a plus de filles qui font du parcours ?
En Allemagne, il y en a pas mal. Aux États-Unis aussi beaucoup. Donc j'espère que ça va venir en France par la suite. Forcément, vu qu'il n'y a pas beaucoup de filles, si elles voient une fille dans l'équipe ou en train de pratiquer, ça donne tout de suite l'impression que c'est possible. Donc c'est vraiment une sorte de défi pour moi d'essayer de fédérer un groupe de filles qui sera capable de suivre les garçons, entre autres.
Du coup, moi, je m'appelle Adélaïde Gandry, j'ai 26 ans et ça va faire bientôt 3 ans que je fais du parcours. Quand on est en train de pratiquer et qu'il y a des passants qui sont là, bah, ça les intrigue forcément parce qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'on va grimper sur un endroit pour aller sauter sur un autre. Du coup, souvent, les gens s'arrêtent et ça met une petite pression d'avoir des spectateurs, mine de rien. Avant, j'allais dans des petits coins cachés. Maintenant, quand il y a des passants, j'arrive à faire un peu abstraction. Quand j'en parle aux gens autour de moi, c'est « Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te tortures comme ça ? T'as des bleus, tu te fais peur en sautant au-dessus du vide, c'est, quel est l'intérêt ?» Dans la rue, il y a beaucoup de street workout, il y a du skate.
Le street workout, c'est la musculation en extérieur.
Voilà, exactement. C'est beaucoup des sports de garçons, je trouve, les sports dans la rue. Et les filles sont plus peut-être en train de faire du yoga en intérieur ou de la danse, c'est un peu cliché. Mais... Et du coup, quand on voit un garçon faire un mouvement, on se dit « Ah oui, mais c'est un garçon, il est hyper musclé, moi, j'arriverai jamais à faire la même chose. » Et en fait, quand petit à petit, on arrive à décomposer le mouvement et à voir qu'en fait, on en est totalement capable, et du coup, c'est vraiment le dépassement de soi, une grande fierté. Parce que ça montre qu'on maîtrise son corps, qu'on maîtrise aussi un peu son esprit. Maintenant, je fonce plus dans la vie, dans le sens où j'ai peur de certaines choses, appeler pour des rendez-vous, ce genre de choses. J'étais un peu timide et maintenant, je me pose moins de questions. Je me dis, bon, il faut que je le fasse et de toute façon, je vais le regretter si je ne le fais pas. Donc, allez, c'est parti. Et du coup, j'ai un côté un peu plus déterminé.
Et donc ces deux jeunes femmes courent aussi le risque d'être interpellées par la police dans les cours d'immeubles par exemple. Il leur arrive même qu'on les engueule parce qu'elles donnent un mauvais exemple aux enfants. Même si elles reconnaissent elles-mêmes être une fille peut aussi avoir des avantages parce qu'elles intriguent. Et donc il est rare qu'elles soient délogées illico. Alors quels sont les avantages à être une fille dans vos aventures, Stéphanie et Jiquel ?
Il y a beaucoup d'avantages, je pense déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la détermination, le mental. Je pense que parfois on peut être amené à devoir surmonter des obstacles que peut-être les hommes ne surmontent pas et donc on développe une sorte de détermination, un mental d'acier. Voilà, puis après aussi peut-être le travail, c'est vrai que pour ma part je travaille énormément et j'ai toujours ce sens du détail et c'est vrai que ça m'a aidé, que ce soit pour ma dernière expédition ou pour des expéditions passées. Bon voilà, après on peut trouver ça aussi chez des hommes.
En tout cas, vous faites la preuve que vous êtes assez costaud, vous aussi, pour mener de telles expéditions. Est-ce qu'on peut être aventurière et féminine, Sophie de Courtivron ? C'est un message.
Oui, sûrement. Oui, bien sûr. Mais les avantages d'être une fille, surtout dans les voyages en solitaire, c'est que ça attire la curiosité des gens. Les gens viennent vraiment vers vous, vous posez des questions, et ça, c'est génial, parce qu'ils ne comprennent pas. Dans beaucoup de pays, beaucoup de cultures, une fille à 30 ans... elle doit être mariée avec des enfants, et voilà, donc une fille
oui,
toute seule.
Oui, sa place, c'est plus à la cuisine, voilà. comme certains donc, auditeurs nous le disent. Donc pourquoi sortir de chez soi, Marion Loiseau ? C'est quoi, vous, le message à travers cette aventure de surf en Iran ?
Le message, je crois que c'est important d'aller au-delà de ces idées reçues pour... de pas s'arrêter à ce qu'on imagine, parce que c'est vrai, quand on pense surf, Iran, femme... A priori, on s'arrête là, quoi, mais finalement, on a créé une belle histoire. Donc, c'est important de se dire qu'il faut aller voir sur place ce qui se passe et de se faire sa propre opinion aussi et d'arriver à s'adapter et à penser autrement, parce que moi j'ai beaucoup appris en Iran avec les femmes, sur ma liberté aussi, sur beaucoup de choses en fait, parce qu'on apprend sur soi aussi, hein, quand on voyage et quand on découvre une culture qui est assez loin de la sienne, on apprend beaucoup sur soi.
Qu'est-ce qui a changé chez vous, par exemple, Stéphanie Jiquel, 3 ans après l'expédition, le retour à la vie normale après, qu'est-ce que ça a bougé comme ligne chez vous ?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Quand je suis rentrée, déjà, j'étais triste à l'idée de ne plus jamais remettre les pieds en Antarctique. J'avais peur de ne jamais remettre les pieds là-bas. Donc, j'ai été profondément triste à ce moment-là. Je suis passée aussi par des stades d'euphorie. Je ne réalisais pas trop ce que j'avais fait. J'ai commencé à réaliser un an après, en fin d'année 2015. Là, je me suis dit, mais t'as fait un truc de fou. Et en relisant notamment les récits d'exploration polaire, en voyant aussi d'autres traversées. Malheureusement, un explorateur est décédé en début d'année et bah, j'aurais pu aussi être à sa place un an avant. Tout ça m'a fait réaliser ce que j'avais fait. Je relativise beaucoup plus qu'avant. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment, dans ma vie. Ouais.
Sophie de Courtivron, pour terminer, alors oui, le retour à la vie normale, au bureau, après les traversées du Caucase, la rame sur le Zambèze, dans quel état on revient ?
Alors, bureau, j'en ai pas. Non, mais en tout cas, moi, après, notamment mon tour du monde, qui a été un peu en solitaire, donc pendant 1 an et 9 mois sans prendre l'avion, ça a été un peu le déclencheur d'une vie qui n'est pas réglée, et j'ai besoin de toujours être, d'avoir cet esprit d'aventure, même dans mon quotidien. C'est pour ça que je suis pigiste. Je ne sais pas de quoi demain va être fait. Si vous voulez, jamais j'accepterai un CDI, parce que pour moi, c'est la prison, c'est 5 semaines de vacances par an. Donc, le voyage m'a changé dans ma vision des choses. J'ai plus soif d'inconfort que de confort. Et voilà, et j'ai fait en sorte d'avoir une vie qui répond à ça.
Une vie d'aventurière. Merci beaucoup à toutes les trois. Donc, Across the Antarctica, le livre chez Vilo, avec vous Stéphanie et Jiquel, Sophie de Courtivron, donc 1000 km à la rame sur le Zambèze, il y a un film aussi qu'on peut visionner, et Marion Loiseau, Into the Sea, donc un film sur le lancement du surf en Iran. Merci beaucoup à toutes les trois, merci à France Bleu Bayonne aussi hein, pour la liaison, merci à toute l'équipe, et demain vous retrouverez Emmanuel Bastide, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent à Dakar. Portez-vous bien.
RFI. Regardez.